Good Morning Business, le grand entretien.
Notre invité, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour.
Bonjour, Christophe Jacobizine et Laure Clausier.
Vous étiez donc autour de vos collègues européens hier, autour de Christine Lagarde, et vous avez pris cette décision qui en a surpris certains. Votre main n'a pas tremblé. 0,50 points de hausse des taux. Alors, maintenant, on se réjouit de la hausse des taux. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'inflation. Cette inflation qui ne diminue pas vraiment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va parvenir à votre objectif. 3% deuxième semestre, 2% l'an prochain. Et donc vous avez dit, notre objectif, il n'y en a qu'un, c'est l'inflation. Quoi qu'il arrive sur les marchés, la situation des banques, on veut lutter contre l'inflation.
Alors nous avons dit des choses un tout petit peu plus subtiles, mais je vous confirme la priorité à la lutte contre l'inflation. Et nous avons un engagement, c'est de ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Nous le tiendrons. Et d'ailleurs, quand vous regardez les prévisions que nous avons publiées hier, l'inflation en zone euro revient bien vers 2% fin 2024, fin 2025. Alors, nous avons quand même évalué la situation. Nous avons beaucoup discuté hier parce que nous nous retrouvions face à une incertitude accrue du fait des problèmes bancaires aux États-Unis et sur Crédit Suisse. On en reparlera sans doute. Mais nous avons décidé finalement de faire ce que nous avions dit à l'avance, c'est-à-dire de relever effectivement de 0,50% les taux. Et ça, je crois que nous avons envoyé un signal de confiance qui est fort et qui est double. C'est à la fois une confiance dans notre stratégie anti-inflation et puis c'est une confiance dans la solidité des banques européennes et françaises.
50 points de base hier, mais pas de calendrier précis sur la suite. Christine Lagarde n'a pas été très précise. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de guidance au sein de la BCE ? Est-ce que vous allez intégrer des données financières, changer votre manière d'analyser l'économie ?
Alors, vous avez raison, Laure Clausier, je crois que ça, c'est un changement hier. Nous avons, dans le même temps que nous donnions ce signal de confiance, nous avons renforcé notre adaptabilité pour le futur. Si je devais prendre une image assez simple, nous sommes passés d'une forme de pilotage automatique au pilotage aux instruments. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Jusqu'à présent, nous disions, nous allons relever les taux, et nous avions même donné une indication assez forte, puisque trois fois de suite, on avait dit qu'on allait relever de ces fameux 0,50. Et là, nous disons que ça va être ouvert, réunion par réunion. Nous déciderons au vu des données. Et nous avons donné une précision assez importante, qui peut-être a été moins notée, c'est quels sont, puisque je parlais de pilotage aux instruments, quels sont les trois cadrans économiques que nous allons regarder. Mais de façon ouverte et pragmatique, pour faire très court, il y a bien sûr les perspectives de l'inflation totale. Il y a un deuxième cadran, ça j'y insiste un peu, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation. Ça, je crois que c'est une décision très importante. Ça rejoint un discours que j'avais fait en ce sens il y a exactement un mois, mi-février. Et puis, il y a un troisième cadran. C'est ce que nous appelons la bonne transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire comment nos décisions sur les taux se transmettent via le canal du crédit vers l'économie.
Et justement, le canal du crédit vers l'économie, on n'arrête pas de commenter ce durcissement du financement pour les entreprises, cette difficulté pour les ménages aussi d'emprunter pour faire un crédit immobilier. Est-ce que vous ne risquez pas de tuer le malade à force d'augmenter les taux ?
Non, je ne crois pas du tout. Il faut soigner la maladie qu'est l'inflation. L'inflation, c'est la première préoccupation de nos concitoyens, c'est la première préoccupation des entrepreneurs. Et Christophe Jacobizine, l'inflation, c'est le premier ennemi de la croissance. Si l'inflation s'installe durablement à niveau élevé, là, il va y avoir une défiance généralisée, une incertitude, et ça, c'est très mauvais pour la croissance. Ça pèse sur la consommation des ménages, ça pèse sur l'investissement des entreprises. Donc, nous soignons la maladie inflation à temps, de façon proportionnée, et ça, ce sont les décisions sur les taux d'intérêt. Sur l'accès au crédit, il est évidemment moins facile qu'il n'a été pendant des années, je vous rappelle, d'argent exceptionnellement favorable. Il y avait des quantités de crédit immobilier comme on n'en avait jamais vu et des taux plus bas que jamais connus. Mais l'accès au crédit pour les ménages sur l'immobilier ou pour les entreprises sur les crédits d'investissement reste bien assuré en France.
Ah, mais c'est plus cher.
C'est plus cher, on est revenu vers des conditions qui sont plus normales, mais je crois que toujours et partout, cette politique monétaire, c'est-à-dire ces mouvements sur les taux d'intérêt, sont la façon efficace de soigner à temps la maladie inflation. Quand il y a une maladie de ce type, on prend les remèdes techniques nécessaires, et plus on les prend tôt, c'est ça qui est important, plus on les prend tôt, plus ils restent proportionnés. Vous savez, ce que nous voulons absolument éviter, c'est de refaire l'erreur des années 70, et ceux qui, comme moi, ont hélas un certain âge, se souviennent de ce qui s'était passé. On a laissé s'installer une inflation à deux chiffres pendant trop longtemps, pendant plusieurs années, et à la fin, il a fallu faire un remède de cheval, aux États-Unis notamment, qui lui a provoqué la récession. Ça, nous ne le ferons pas.
Quand vous dites que vous allez regarder des données financières pour évaluer la situation pour les futures ou pas hausses des taux, est-ce que vous allez regarder comment les banques gèrent la hausse des taux? Quel impact? On a vu ça avec la crise aux États-Unis, on va en reparler, mais c'est quoi précisément ce que vous allez regarder?
Alors ça, c'est le troisième cadran dont je parlais, donc ouais. Que nous appelons dans notre langage, pardon, la transmission de la politique monétaire, peut-être pour le dire de façon plus simple ou imagée, c'est ce qu'il y a dans le tuyau. Nous décidons les relèvements taux en amont, et puis c'est transmis à l'économie via le tuyau ou le canal des banques. Donc nous regardons à la fois le fait que les banques sont suffisamment solides, on va y revenir, mais les banques européennes et françaises sont très solides, et puis nous regardons le délai de transmission, c'est-à-dire que des décisions que nous avons déjà prises sur les taux d'intérêt mettent un certain temps à arriver à l'économie et donc à lutter contre l'inflation. Ça, au passage, c'est un des débats techniques qu'il y a aujourd'hui, c'est quel est ce délai de transmission de la politique monétaire dans les circonstances où nous sommes aujourd'hui, en 2023. C'est un débat aux États-Unis comme en Europe. Traditionnellement, vous vous souvenez peut-être, on disait c'est un an ou deux ans. Certains disent, aux États-Unis notamment, c'est plus rapide aujourd'hui. Je crois que c'est une des questions qu'il faut que nous creusions. Mais quand nous prenons nos décisions futures, il faut toujours avoir en tête l'effet de nos décisions passées.
Évidemment, on est très inquiet sur ce qui se passe aux États-Unis sur le système bancaire américain. Vous avez vu que cette nuit, il y a First Republic, les grandes banques américaines, une douzaine de banques sont venues lui apporter 30 milliards pour que justement elle ne fasse pas, que le bank run n'entraîne pas sa faillite. C'est la quatrième banque depuis une semaine. On sait, il y a eu Silvergate, SVB, Signature. Au total, est-ce que vous savez combien les banques américaines ont emprunté à la Réserve fédérale en une semaine? 165 milliards de dollars. C'est énorme. Est-ce que vous pourriez faire la même chose si des banques européennes venaient à être victimes d'un bankrun?
Alors, nous pourrions faire la même chose, et nous avons dit hier que si nécessaire, nous avions les instruments pour assurer la liquidité des banques. Ça fait partie de notre mission de stabilité financière. Au passage, c'est un instrument séparé de nos instruments anti-inflation qui, eux, sont les taux d'intérêt. Mais nous n'aurons probablement pas besoin de faire la même chose parce que les banques européennes ne sont pas dans la situation de certaines banques américaines dont vous parliez.
Vous êtes sûr ?
Pour une raison très simple. Pour une raison très simple qui est qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Les règles qui s'appliquent en Europe sont des règles très renforcées depuis la crise financière. C'est ce qu'on appelle Bâle III, dont on a souvent parlé, qui ont parfois été critiqués par la profession. On nous a demandé d'alléger Bâle III. Je crois qu'on est en train de voir l'efficacité de Bâle III. Bâle III, ça impose des règles de sécurité aux banques européennes, des règles sur leur liquidité, c'est-à-dire leur trésorerie, des règles sur leurs fonds propres. Et en Europe, la quasi-totalité des banques sont soumises à Bâle III. On est à plus de 400 groupes bancaires. Est-ce que vous savez, Christophe Jacobizine, combien il y a de banques aux États-Unis qui sont soumises aux mêmes règles? 13 seulement. Alors qu'il y a plus de 5000 banques aux États-Unis.
Pourquoi ils sont pas soumis aux mêmes règles?
C'est les 13 banques les plus importantes. Il y a malheureusement, je suis obligé de le dire, une décision qui a été prise au temps de l'administration Trump en 2019, ce qu'ils ont appelé le Tailoring Act, qui a consisté à dispenser les banques moyennes ou petites des règles de Bâle III. Et les banques en difficulté dont vous parlez, les 3S ou First Republic hier, ou certaines banques régionales, sont des banques qui, aux États-Unis, ne sont pas soumises à Bâle III. Je redis que les banques françaises et européennes, elles sont extrêmement solides. Pour vous citer l'exemple des banques françaises, elles ont plus que doublé leur capital par rapport à 2008.
On entend que c'est un scandale de non-régulation en fait aux États-Unis, SVB et les autres. Mais quand on demande aux grandes banques nationales américaines d'aider ces petites banques régionales, on peut se demander si on ne serait pas le troisième échelon. C'est-à-dire, on n'est pas directement lié aux banques régionales, mais on est lié à ces banques nationales. Est-ce que nous, on pourrait avoir des difficultés qui viennent de là?
Je vous laisse la responsabilité du mot scandale. En tout cas, c'est une faille de régulation. Les grandes banques américaines dont vous parlez, elles sont soumises à Bâle III. Et donc, elles ont les mêmes règles de sécurité qui inspirent confiance en Europe. De ce point de vue-là, je pense qu'il y aura un certain mouvement de consolidation aux États-Unis. Par ailleurs, les autorités américaines, et je crois que c'est bienvenu, ont annoncé une réflexion sur la réglementation aux États-Unis. Est-ce qu'elles décideront d'étendre à ces banques moyennes les fameuses règles de sécurité de Bâle III? C'est à elles d'en décider. Je crois que ça serait souhaitable.
Est-ce que Crédit Suisse était soumis à Bâle III?
Alors, Crédit Suisse, c'est un cas différent. Crédit Suisse était soumis à Bâle 3.
Crédit Suisse, empêché d'être en
Crédit
difficulté.
Crédit Suisse est en dehors de la zone euro. Crédit Suisse est un cas très particulier qui est connu depuis plusieurs années. C'est une banque qui a à la fois des difficultés de modèle d'affaires, d'activité, de profitabilité. Crédit Suisse a fait beaucoup de pertes ces dernières années. Et puis qui a des défaillances, qu'elle a reconnues d'ailleurs, de son système de contrôle interne, qui fait qu'elle a pris beaucoup de mauvais risques. Sur des affaires dont on a passé, parlé, Archegos, Green Seal, etc. Crédit Suisse était à chaque fois embarqué. Donc, les nouveaux dirigeants de Crédit Suisse, avec les autorités suisses qui ont publié un communiqué mercredi soir, sont engagés dans un plan de redressement de la banque. Je crois qu'il faut aller au bout du travail.
Sur l'inflation, on a eu des prévisions hier de la BCE qui sont entre 5 et 6 pour la fin de l'année, avec une inflation
corps. Oui, ça sera moins sur la fin de l'année.
Voilà,
si je peux me permettre, c'est la moyenne de l'année. Sur la fin de l'année, il y aura une diminution sensible à cause notamment des produits alimentaires.
Combien sur le deuxième semestre
ouais.
Combien sur le deuxième semestre, l'inflation
On serait sur la fin de l'année, dans la prévision de la BCE, autour de 3% pour la zone euro. Je fais une petite différence, si vous voulez bien, entre la fin 2023, qui est une prévision, et ce que j'ai dit sur revenir vers 2% fin 2024 et fin 2025, qui est non seulement une prévision, mais un engagement. C'est ça notre objectif. Pourquoi je me situe à cet horizon? C'est lié à ce que nous disions sur le délai de transmission de la politique monétaire d'un à deux ans.
Merci beaucoup François de Vidal-Gallo d'être venu nous voir ce matin, gouverneur de la Banque de France, que vous pouvez réécouter en replay et en podcast sur notre antenne.